Fédor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol. Avertissement. L'auteur de ces carnets et les carnets eux-mêmes sont certes imaginaires. Pourtant, non seulement des hommes comme l'auteur des carnets peuvent exister, mais ils le doivent dans notre société au vu des circonstances dans lesquelles celle-ci s'est édifiée. J'ai voulu présenter au public, avec un peu plus de force que de coutume, un de ces caractères qui appartiennent à un passé récent. Cet homme est le représentant d'une génération en survie. Dans ce fragment, intitulé « Le sous-sol », le personnage se présente, lui-même et sa façon de penser, et semble chercher à retrouver les causes qui l'ont produit, et devaient le produire dans notre monde. Le fragment qui suivra comprendra ses carnets en tant que tel sur certains événements de sa vie. Fédor Dostoïevski. Première partie, le sous-sol. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir. Voilà ce que je suis. Je pense que j'ai mal au foie. De toute façon, je n'y entends rien à ma maladie. Et je ne sais pas au juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas et je ne me suis jamais soigné, même si je respecte la médecine et les docteurs. En plus, qui plus est, je suis superstitieux au dernier degré. Enfin, assez pour respecter la médecine. Je suis assez instruit pour ne pas être superstitieux, mais je suis superstitieux. Non, si je ne veux pas me soigner, c'est par méchanceté. Ça, messieurs, c'est une chose que vous ne comprenez pas. Eh bien, moi, je comprends. Évidemment, je ne saurais vous expliquer à qui je fais une crasse quand j'obéis à ma méchanceté de cette façon-là. Je sais parfaitement bien que ce ne sont pas les docteurs que j'emmerde en refusant de me soigner. Je suis le mieux placé pour savoir que ça ne peut faire de tort qu'à moi seul et à personne d'autre. Et malgré tout, si je ne me soigne pas, c'est par méchanceté. J'ai mal au foie, tant mieux qu'il me fasse encore plus mal. Il y a longtemps que je vis comme ça, dans les 20 ans. Maintenant, j'en ai 40. Avant, j'étais un fonctionnaire. Maintenant, je ne suis plus fonctionnaire. J'étais un fonctionnaire méchant. J'étais grossier, c'était une jouissance. Je ne prenais pas de pot de vin, vous comprenez? Il fallait bien que je me dédommage, ne serait-ce que comme ça. Mauvaise pointe. Mais je ne la barre pas. Je visais l'effet comique en l'écrivant. Maintenant, je comprends assez que je ne cherchais qu'à crâner d'une façon ridicule. Je ne barre rien, exprès. Parfois, les solliciteurs s'approchaient de ma table pour un renseignement. Je grinçais des dents en guise de réponse et je ressentais une jouissance insatiable quand j'arrivais à leur faire de la peine. J'y arrivais presque toujours. Ils étaient presque tous bénis oui-oui, et des solliciteurs. Mais parmi tous les gandins, il y avait surtout un officier que je ne pouvais pas voir en peinture. Il refusait absolument de se soumettre et faisait un tintouin dégoûtant avec son sabre. Moi, pour ce sabre, je lui ai fait la guerre 6 mois durant. Et je l'ai eu. Il l'a mis en sourdine. Mais bon, c'était quand j'étais jeune. Et cependant, messieurs, savez-vous ce qui, surtout, faisait le fond de ma méchanceté? C'est là qu'était le nœud de l'affaire. C'est là qu'était la saleté la plus nauséabonde, qu'à chaque instant, même dans mes montées de bile les plus irrépressibles, je comprenais honteusement que non seulement je n'étais pas un homme méchant, je n'étais même pas aigri, je ne passais mon temps qu'à faire peur aux moineaux, et je trouvais là toute ma satisfaction. J'avais l'écume aux lèvres, mais il aurait suffi qu'on m'apporte une poupée, qu'on me donne du thé avec du sucre, je me serais radouci. Je vous le jure. Même l'émotion m'aurait serré la gorge. Après, sans doute aurais-je grincé des dents contre moi-même, de honte, et j'aurais eu des insomnies pendant des mois. je suis comme ça. J'ai menti plus haut en disant que j'étais un fonctionnaire méchant. J'ai menti par méchanceté. Les solliciteurs ou l'officier, c'était un jeu, rien d'autre. En fait, je n'ai jamais pu devenir méchant. Je ressentais à chaque instant au fond de moi une foule, oui, une foule d'éléments les plus hostiles à la méchanceté. Je les sentais grouiller à l'intérieur, ces éléments hostiles. Je savais bien qu'ils y avaient grouillé toute ma vie et qu'ils ne demandaient qu'à jaillir au dehors, mais je refusais, oh oui, je refusais de les voir jaillir. Ils me martyrisaient jusqu'à la honte. Ils en arrivaient à me donner des convulsions. Et comme j'ai fini par en avoir assez, mais assez. Tout doux, messieurs, n'auriez-vous pas l'idée que je bats ma coulpe devant vous? Que tout se passe comme si je vous demandais pardon de je ne sais quoi? Je suis sûr que oui. Bah, pensez ce que vous voulez. Moi, je vous assure que ça m'est égal. Non seulement je n'ai pas su devenir méchant, mais je n'ai rien su devenir du tout. Ni méchant, ni gentil, ni salaud, ni honnête, ni un héros, ni un insecte. Maintenant que j'achève ma vie dans mon trou, je me moque de moi-même et je me console avec cette certitude aussi bilieuse qu'inutile. Car quoi? Un homme intelligent ne peut rien devenir. Il n'y a que les imbéciles qui deviennent. Un homme intelligent du XIXe siècle se trouve dans l'obligation morale d'être une créature essentiellement sans caractère. Un homme avec un caractère, un homme d'action, est une créature essentiellement limitée. C'est là une conviction vieille de 40 ans. Maintenant, j'ai 40 ans. Et 40 ans, c'est toute la vie, la vieillesse la plus crasse. Vivre plus de 40 ans, c'est indécent, c'est vil, c'est immoral. Qui donc vit plus de 40 ans? Répondez, sincèrement, la main sur le cœur. Je vous le dis, moi, les imbéciles et les canailles. Je leur dirai en face à tous ces vieux, à tous ces nobles vieux, à ces vieillards aux cheveux blancs, parfumés de benjoin. Je le dirai à la face du monde. J'ai bien le droit de le dire. Je vivrai au moins jusqu'à 60 ans. Je survivrai jusqu'à 70 et jusqu'à 80. Ouf, laissez-moi souffler. Vous devez croire, messieurs, que j'ai l'intention de vous amuser. Là aussi, vous faites erreur. Je ne suis pas du tout le bout en train que vous croyez, ou que vous croyez peut-être. Mais si ce bavardage vous énerve, je sens qu'il vous énerve. Et s'il vous vient l'idée de me demander « Qui suis-je au juste ?», je vous réponds « Je suis un assesseur de collège. J'ai été fonctionnaire pour me payer mon pain, seulement pour cela. » Et puis, l'année dernière, quand un de mes lointains parents m'a laissé 6000 roubles d'héritage, je me suis pressé de démissionner et je me suis installé chez moi, dans mon trou. J'y habitais avant, dans ce trou, mais maintenant, je m'y suis installé. Ma chambre est moche, elle est sale, elle est au bout de la ville. Ma bonne est une paysanne, elle est vieille, elle est bête et méchante. En plus, elle pue que c'est insupportable. On me dit que le climat de Pétersbourg me fait du mal et qu'il est très coûteux de vivre à Pétersbourg avec des moyens aussi misérables que les miens. Je sais cela mieux que ces conseillers si sages, si doués d'expérience, mieux que les bénis oui-oui. Eh bien, je reste à Pétersbourg. Je ne sortirai pas de Pétersbourg. Si je ne sors pas, c'est que... Oh, mais ça n'a rigoureusement aucune importance, que je sorte ou que je ne sorte pas. Mais bon... De quoi un honnête homme peut-il parler avec le plus de plaisir? Réponse, de lui-même. Et donc, je parlerai de moi. Maintenant, messieurs, je vais vous raconter, que cela vous plaise ou non, pourquoi je n'ai même pas pu devenir un insecte. Je vous le dis avec solennité. J'ai voulu devenir un insecte à de nombreuses reprises. Et même là, je n'ai pas eu l'honneur. Je vous assure, messieurs, avoir une conscience trop développée, c'est une maladie. Une maladie dans le plein sens du terme. La vie quotidienne ne se contenterait que trop d'une conscience normale, c'est-à-dire d'une conscience inférieure de moitié ou des trois quarts, à celle qui est le lot de l'homme évolué de notre infortuné XIXe siècle, d'un homme qui aurait, de plus, le malheur particulier d'habiter Pétersbourg, la ville la plus abstraite et la plus préméditée de la planète. Il y a des villes préméditées ou des villes spontanées. Par exemple, on aurait largement assez de la conscience qui pousse les hommes soi-disant d'exception ou les hommes d'action. Ma main au feu, vous vous dites que j'écris ça pour crâner, pour faire le malin sur les hommes d'action, que mes crâneries sont de mauvais goût et que je fais du tintouin avec mon sabre comme mon officier. Holà, messieurs, avez-vous déjà vu quelqu'un se vanter de ses maladies? Ou à plus forte raison, crâner avec? Que dis-je? Mais tout le monde. C'est bien de ses maladies qu'on se vante. Et moi le premier. D'accord, ma réplique ne valait rien. Et néanmoins, je reste fermement convaincu que non seulement une conscience accrue, mais que toute forme de conscience est une maladie. J'insiste. Laissons cela aussi pour l'instant. Dites-moi une chose. Pourquoi est-ce justement, comme par hasard, dans les mêmes minutes, oui, les minutes mêmes, où je me trouvais le plus apte à prendre conscience de toutes les finesses du beau et du sublime, comme on disait jadis, qu'il m'arrivait non plus d'avoir conscience, mais d'accomplir des actes si peu reluisants que... Bref, en un mot, qui sont le lot de tous, mais que je faisais moi comme par hasard dans les instants précis où je sentais le plus que je ne devais pas les faire. Plus je prenais conscience du bien, de tout ce beau et ce sublime, plus je m'engluais dans mon marais et plus j'étais capable de m'y noyer complètement. Mais l'essentiel restait que ça ne semblait jamais fortuit, comme si c'était ce qu'il fallait, comme si c'était là mon état naturel et non ma maladie ou mon défaut, de sorte qu'à la fin, j'ai perdu toute envie de combattre ce défaut. Et j'ai fini par faillir croire, peut-être l'ai-je cru vraiment, que c'était bien cela, mon état naturel. Mais d'abord, au début, que n'ai-je pas dû subir dans cette lutte? J'étais incapable de croire que tout le monde était dans le même cas. Je cachais donc cela comme un secret. J'avais honte, peut-être ai-je honte jusqu'à ce jour. J'en arrivais à ressentir... je ne sais quel petit plaisir secret, pas normal et pas propre, quand je rentrais chez moi, dans mon trou, par une de ces nuits les plus mauvaises que nous avons à Pétersbourg, et que j'avais une conscience accrue d'avoir fait ce jour-là encore une nouvelle saleté, et ce que j'avais fait étant irréparable, je me rongeais secrètement de l'intérieur, je me rongeais à toutes dents, me taraudais, et me bouffais moi-même jusqu'à ce que l'amertume devienne une honteuse, une maudite espèce de douceur, et puis une jouissance franche et grave. Une jouissance, oui, une jouissance, j'insiste. J'en parle parce que j'ai toujours voulu en avoir le cœur net. Les autres ressentent-ils ce genre de jouissance? Que je vous explique. Cette jouissance-là provient d'une conscience trop claire de votre abaissement, du fait que vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade, et que c'est moche, et qu'il n'y a pas moyen de se sentir mieux, qu'il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre, que, même s'il vous restait du temps et de la foi pour devenir quelque chose d'autre, vous ne voudriez plus vous-même, sans doute, vous transformer. Et que, si vous vouliez, vous ne pourriez rien faire de toute façon, parce qu'il est vrai, peut-être, que vous n'avez plus rien en quoi vous transformer. Surtout, et à la fin des fins, cela se produit suivant les règles naturelles, fondamentales, de la conscience accrue et de l'inertie qui en découle directement. Et donc, en conséquence, non seulement il n'y a plus moyen de se transformer, mais il n'y a tout simplement plus rien à faire. Vous arrivez, par exemple, à cela avec votre conscience accrue. Vous faites bien d'être une canaille. Comme si c'était une consolation pour une canaille d'avoir conscience qu'elle est vraiment une canaille. Pourtant, assez. Ça, pour parler, j'ai bien parlé, mais j'ai expliqué quoi ? Comment s'explique ce genre de jouissance ? Si, si, je m'expliquerai. Je finirai par y arriver. C'est pour cela que je me suis mis à écrire. Par exemple, j'ai un amour-propre effrayant. Je suis susceptible et rancunier comme un bossu ou comme un nain, et cependant, j'ai vécu des minutes où si j'avais reçu une gifle, j'aurais bien pu en être heureux. Je ne ris pas. Sans doute aurais-je été capable de découvrir même là une sorte de jouissance. Jouissance du désespoir, cela s'entend. Mais c'est dans le désespoir que nous arrivent les plaisirs les plus brûlants, surtout si l'on ne ressent que trop l'impasse où nous sommes tombés. Hélas, cette gifle, comme elle vous écrabouille la conscience, de voir quelle crotte on vient de faire de vous. L'essentiel, quoi qu'on en dise, c'est quand même cela, que c'est moi le premier coupable de tout. Et le plus humiliant, c'est que je suis coupable sans péché, pour ainsi dire, selon les seules lois de la nature. Parce que d'abord, je suis coupable d'être plus intelligent que tous ceux qui m'entourent. Je me suis toujours senti plus intelligent que tous ceux qui m'entouraient. Et quelquefois, me croirez-vous, j'en ai même éprouvé des scrupules. Du moins, toute ma vie ai-je regardé, pour ainsi dire, de biais, et me suis-je toujours montré incapable de regarder quiconque droit dans les yeux. Parce que je suis coupable, enfin, du fait que même si j'étais doué d'une quelconque grandeur d'âme, je n'en éprouverais qu'une douleur plus grande à la conscience de son inutilité. Je crois que je ne saurais pas quoi faire avec ma grandeur d'âme, ni pardonner à mon offenseur s'il m'a frappé en vertu des lois de la nature, car il est impossible de pardonner aux lois de la nature, ni oublier, parce que les lois de la nature sont ce qu'elles sont, mais l'humiliation aussi. Et même si j'avais voulu ne pas avoir la moindre grandeur d'âme, si j'avais désiré, au contraire, tirer vengeance de mon offenseur, j'aurais été bien incapable de le faire, parce que sans doute, je n'aurais jamais pu me décider, et ça, même si j'en avais eu la possibilité. Pourquoi n'aurais-je pas pu me décider ? Je veux dire deux mots sur le sujet.